France Culture, il est 16h. Tout de suite, la marche des sciences, Aurélie Luneau.
C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la marche des sciences. À l'occasion de la semaine spéciale Demain, les savoirs qui mobilisent de nombreuses émissions sur nos antennes depuis lundi, nous avons choisi de plonger dans un domaine de l'histoire des sciences en pleine ébullition. Depuis ces dernières années notamment, un terrain de recherche qui fait écho aux fortes préoccupations de notre société moderne, il s'agit de l'histoire de l'environnement. Terre, mer, environnement, une histoire qui a le vent en poupe, c'est le sujet que nous allons explorer aujourd'hui en direct sur France Culture et en compagnie de trois jeunes chercheurs en histoire des sciences. Odile McBournet, ingénieure agronome, dont les travaux de recherche ont déjà porté sur les archives orales de l'INRA et la biographie historique, le cas de Jacques Poli. Et puis Odile Bournet, donc, qui mène une thèse d'histoire sur la recherche agronomique et les politiques de la science, les relations entre l'INRA et ses ministères de tutelle à l'Université de Lyon. Avec nous aussi Lisalou Marton, doctorante en histoire au laboratoire d'études rurales de l'Université de Lyon et en lien avec l'Université d'Ottawa. Sa thèse s'intéresse aux sciences forestières dans l'espace transatlantique, pratique, théorie et circulation, une comparaison des recherches forestières entre la France et le Canada. Et puis enfin, Loïc Péton, jeune docteur en histoire des sciences, spécialisé en histoire de l'étude de l'océan et des sciences de la vie, et dont la thèse, soutenue en janvier à l'Université de Bretagne occidentale et avec le Centre François Viette de Brest, s'intitule « Penser l'existence de vie dans les profondeurs marine au 19e siècle, entre abîme et origine du vivant, 1804-1885. Une première partie d'émission émaillée d'archives sonores de l'INA grâce à Anaï Morales et puis de quelques textes lus en direct par Régis Royer. Et puis, en seconde partie d'émission, vers 16h45, en partenariat avec le magazine Pour la Science, nous plongerons dans l'histoire d'une découverte qui est à l'origine de notre connaissance des gènes homéotiques. 100 ans après, récit avec Stéphane Schmitt, directeur de recherche au laboratoire Sphère, Sciences, Philosophie, Histoire. C'est à l'Université Paris Diderot. Et donc, Stéphane Schmitt est auteur notamment du livre Histoire d'une question anatomique, la répartition des parties, un livre édité aux éditions du Muséum national d'histoire naturelle, et il signe cet article intitulé « Comment la mouche a perdu son aile et la Russie sa découverte », un article à retrouver en page Histoire des sciences du magazine Pour la science. Mais tout de suite, place à la relève des savoirs.
Et les chercheurs pourront-ils mettre au point, avant qu'il ne soit trop tard, un vaccin capable de prévenir ou un sérum capable de guérir la terrible maladie dont beaucoup sont atteints? L'esprit des chercheurs malades n'est plus préoccupé par la découverte, il n'est plus orienté vers l'intérieur, mais vers le contact avec le milieu extérieur. Il ne s'agit plus d'analyser un phénomène, de trouver une solution originale à un problème, mais de savoir où en sont les Américains, les Russes, les Anglais ou les Japonais dans des études similaires. Et ainsi, par le jeu des contacts trop fréquents, les chercheurs se copient mutuellement et abordent malgré eux les mêmes problèmes de la même façon en même temps. L'exploration ne se fait donc pratiquement que d'une seule manière, simultanément en des lieux différents. Il s'agirait de refuser aux chercheurs d'avoir des contacts entre eux. Alors, des symposiums tous les 2 ou 3 ans permettront de présenter des communications dont certaines seront extrêmement profitables. On aura des chances de voir le même problème abordé de différentes façons, d'obtenir des résultats contradictoires, des discussions intéressantes. Cela forcera la réflexion. Le chercheur reprendra l'habitude de chercher en lui-même la solution. Il ne sera plus un copieur qui s'aligne sur le goût du jour, mais un trouveur possible.
Bonjour Odile McBournet.
Bonjour.
Bonjour Lisalou Marton.
Bonjour.
Et bonjour Loïc Péton.
Bonjour.
Vous êtes passé, on peut le dire, hein, entre les gouttes des grèves SNCF, hein, puisque vous venez les uns les autres, alors soit de Lyon, soit de Quimper. Donc merci d'être avec nous. On vient d'entendre un texte que vous nous avez proposé, Lisa Loumarton. C'est l'image des chercheurs, donc regard jeté sur eux par Jean-Claude Arlot, qui était alors ingénieur au CEA, et publié donc ce regard dans Le Monde du 10 mars 1971, et reproduit dans les colonnes du bulletin de l'INRA. Donc l'INRA, hein, l'Institut National de la Recherche Agronomique, et donc reproduit en mai-juin 1971. Vous avez choisi ce texte parce qu'il résonne peut-être aujourd'hui avec ce monde des chercheurs que vous scrutez, hein, en tant qu'historien, historienne, vous ici. Lisa Loumarton.
Alors oui, c'est un texte que j'ai croisé lors de mes recherches pour l'article sur l'internationalisation de la démarche de l'INRA. Et je voulais proposer essentiellement parce que je trouvais qu'il s'inscrivait bien dans la thématique de la circulation des savoirs, que je traite aussi bien dans les recherches que j'effectue sur l'INRA, mais aussi dans le cadre de ma thèse. Et je trouvais qu'il proposait d'aborder la question sous un angle peut-être un peu plus réflexif, en posant la question de manière sous-jacente de savoir si la circulation des savoirs, l'internationalisation, produisait ce qu'on pourrait qualifier de bonne science. Mmh. Et au-delà, qu'est-ce qui produit de la bonne science? Qu'est-ce qui détermine une bonne science?
Oui, donc ces textes hein, qui datent des années 70, là, celui-ci notamment, et puis ces témoignages qui sont intéressants, parce que dans votre démarche, on va le comprendre, et cette démarche qui vous est propre à tous, hein, c'est qu'il y a cette façon de s'intéresser au lien entre science et société, on va en parler. Alors, avant d'entrer justement dans le sujet de vos travaux respectifs, embrasser l'histoire des sciences, faire ce choix, en tout cas, de devenir historien des sciences, ce n'est pas forcément un choix facile. Vous allez peut-être nous dire les uns les autres comment vous y êtes venu, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un secteur qui n'est pas encore totalement représenté dans les départements universitaires en histoire. Alors, on commence peut-être par vous, Odile McBournet. Ce choix, précisément, vous avez un parcours un peu particulier parce que vous avez d'abord commencé à travailler à l'INRA en tant qu'ingénieur agronome, je crois.
Alors, je suis en effet de formation donc ingénieur agronome et j'ai travaillé 12-13 ans au service des productions animales de Rhône-Alpes. Et puis, je faisais un travail assez technique et j'avais besoin de me renouveler et puis d'assouvir ma soif de curiosité. Et j'avais depuis toujours eu envie de... Enfin, je m'étais dit, je fais mon école d'agro, je travaille et ensuite, je reprendrai mes études un jour. Donc, la possibilité m'en a été donnée, les enfants grandissant, etc., d'avoir un peu plus de liberté. Et donc, cette liberté, j'ai décidé d'en faire quelque chose. Et donc, j'ai suivi l'enseignement d'un master 2 de recherche en histoire, philosophie et didactique des sciences à ce qui s'appelait l'Université Lyon 1. Et alors, j'aime bien le générique de votre émission. On dit comment être littéraire et scientifique, et ben oui. On va faire de l'histoire des sciences.
Et ça me rejoint. Michel Serres qui disait ça, d'ailleurs.
Voilà, alors mon souhait de faire de l'histoire des sciences vient aussi d'un grand désir de l'écriture que j'aime beaucoup. Et donc ça permettait d'allier les deux.
Tout en restant dans votre univers, c'est-à-dire l'INRA, et donc cet univers dans lequel vous êtes complètement impliqué, hein, parce que non seulement vous avez d'ores et déjà mené des travaux de recherche alors sur les archives orales de l'INRA, on va en parler à travers une biographie historique, hein, le cas de Jacques Pouly, mais vous êtes aussi très impliqué aujourd'hui. Il faut rappeler que l'INRA fête ses 70 ans et qu'il y a tout un travail mené aujourd'hui par le comité d'histoire créé en 2005, comité d'histoire INRA. CIRAD, hein, CIRAD, je rappelle, hein, c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique, et que véritablement cette histoire longue de l'INRA, vous l'embrassez aujourd'hui en tant qu'historienne. Lisa Loumarton, alors cette décision de partir sur le terrain de l'histoire des sciences.
Alors j'ai un parcours un peu atypique, puisque après mon bac, je me suis d'abord dirigée vers des études littéraires. Et c'est seulement dans un second temps que je me suis réorientée vers l'histoire. Et assez rapidement, j'ai choisi de m'intéresser à l'agronomie. Mon mémoire de Master 1 portait notamment sur les sciences vétérinaires. Et je m'étais particulièrement intéressée à l'introduction en France d'une race bovine britannique, le Durham. Et à l'engouement, mais aussi aux polémiques que ça avait suscité. Donc j'avais déjà cette curiosité pour la circulation des pratiques, des matériels, qu'ils soient animaux ou végétaux, entre les pays. Et après, j'ai eu l'occasion de faire mon année de Master 2 en échange au Canada. Et c'est vrai que c'est vraiment une expérience qui m'a permis de m'ouvrir à d'autres horizons historiographiques. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est une histoire qui reste peu représentée en France. Et puis après, c'est surtout le stage que j'ai réalisé pour le compte du comité d'histoire de l'INRA et du CIRAD, qui avait été un stage qui avait été accueilli au sein du LER. Et c'est là que ça m'a mis le pied à l'étrier pour travailler sur les forestiers.
Alors on va rentrer un tout petit peu plus, au moins pour aussi les auditeurs qui ne connaîtraient pas plus que ça l'histoire de l'INRA et les fonctions. Donc l'INRA, créé en 1946, par le gouvernement provisoire, dans un but aussi précis, redessiner l'agriculture métropolitaine dans un pays qui d'ailleurs va connaître le rationnement jusqu'en 1949. Avant peut-être de donner un petit peu plus d'éléments sur l'institution, je propose d'écouter un premier document d'archives sonores. Il s'agit de la voix de René Dumont, l'agronome. On l'écoute dans l'émission La Tribune de Paris, c'était le 27 janvier 1949.
J'estime que la production agricole française sera accrue si une part des paysans sous-productifs des régions congestionnées de l'Ouest, et j'ai vu des petites fermes de Saint-Marie-de-Ré où deux hommes travaillent 2 hectares et ont une productivité insuffisante, sera accrue si l'un de ces deux hommes part à l'usine de tracteurs et de matériel agricole fournir à l'autre un matériel grâce auquel celui qui reste cultivera une surface plus grande, mieux, plus intensivement et par conséquent permettra à la France de contribuer plus largement au ravitaillement de l'Europe occidentale qui ne peut plus se nourrir avec des dollars puisqu'elle n'a pas de dollars.
Alors on imagine dans cette histoire que vous retracez et à laquelle vous participez, cette histoire de l'INRA, Odile McBurney et Lisa Lou Martin, vous rencontrez comme ça ces personnages qui ont été importants, qui ont compté. René Dumont en fait partie.
Oui, tout à fait. René Dumont en fait absolument partie. Il y a bien deux choses que l'on entend dans cet extrait. Donc, d'une part, le fait qu'il part d'un constat que la société paysanne en France est quand même très pauvre. Il parle donc de la toute petite exploitation. Ils sont simplement 2 pour 2 hectares, si j'ai bien entendu.
Oui.
Donc ça, c'est un premier thème qui est important, le fait qu'il parte sur des considérations sociales. Mmh. Et puis, le deuxième mot important, c'est le mot productivité. Il a été effectivement, dans ces années-là, un fervent promoteur de la productivité en agriculture, et notamment le promoteur de ce qu'on a appelé la révolution fourragère, donc qui s'étale sur une période de 1945 à 1970, et où l'objectif, c'était de transformer les prairies naturelles en prairies cultivées pour avoir des fourrages suffisamment abondants et de bonne qualité pour les animaux d'élevage.
Alors, ça fait partie de ce que vous travaillez, Odile McBurney, donc dans votre thèse. Je rappelle le sujet quand même de votre thèse d'histoire des sciences. La recherche agronomique et les politiques de la science, les relations entre l'INRA et ses ministères de tutelle. Donc, une thèse co-dirigée par Pierre Cornu et Gisio Balseschini, qui d'ailleurs est à la tête du comité d'histoire de l'INRA, il faut le rappeler. Donc, aujourd'hui, finalement, à ce stade de cette thèse, qu'est-ce que vous avez mis en lumière? Qu'est-ce que vous avez d'ores et déjà peut-être découvert qui n'était pas forcément connu dans le fonctionnement?
Alors, pour repréciser un tout petit peu les choses, en fait, je suis dans un moment charnière, c'est-à-dire que je suis en train de finir donc la rédaction avec Pierre Cornu et Gisio Balseschini, donc d'un ouvrage sur l'histoire de l'INRA. Mmh. Voilà, et en même temps, je commence à peine ma thèse, c'est-à-dire à réfléchir à mon sujet, à faire de la bibliographie, à trouver un titre qui correspondra vraiment à ce que je vais faire. Donc j'en suis vraiment au balbutiement de la thèse.
D'accord. En sachant que vous avez quand même plongé dans cette histoire de l'institution qui n'avait jamais été racontée quand même. C'est-à-dire que l'INRA jusque-là ne s'était même pas forcément donné les moyens de conserver sa mémoire. Parce que n'y pensait peut-être pas d'ailleurs. Il y a eu cette démarche il y a quelques années où c'était d'abord en 1993 où c'est ça, je crois, le départ en fait d'une mémoire orale qui a été recueillie parce que l'INRA ne gardait pas forcément ses archives.
Voilà, donc effectivement, les établissements, depuis la loi de 1979, sont invités à avoir une politique d'archivage, ce qui n'était pas le cas pour l'INRA. Et donc, au début des années 90, en 1992, l'INRA a chargé un sociologue, donc un de ses agents, de faire une étude et de proposer ce qui pourrait être une politique pratique d'archivage des documents administratifs et financiers de l'INRA. Donc pour ça, Monsieur Poupardin a fait notamment des enquêtes dans tous les centres INRA en France, parce que l'INRA est un institut assez décentralisé et présent sur tout le territoire. Et des entretiens qu'il a faits, il s'est rendu compte que finalement, une grande partie des gens qui avaient connu la création de l'INRA, qui avaient été là au moment des Trente Glorieuses, oui, allaient partir à la retraite. Et avec eux, c'était tout un pan de la mémoire de l'INRA qui partait. Donc, Denis Poupardin a proposé à la direction générale de commencer une collecte d'archives orales. La direction générale a accepté, la collecte a commencé en 1995.
Et aujourd'hui, on comptabilise 370 témoignages oraux, dont 140 ont été publiés. Et c'est sur ces documents aussi, sur lesquels donc vous travaillez, ce sont ces documents qui peuvent nous révéler un pan, en tout cas, de l'histoire. Hein, Lisa Loumartone.
Oui, c'est vrai que ça permet un peu une vision en immersion, qui est vraiment d'une grande richesse. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai l'habitude de travailler sur des documents beaucoup plus anciens et j'ai pas accès à ce savoir, à la vie de l'institut, vue de l'intérieur.
De l'intérieur, parce qu'on n'a pas d'archives écrites, on n'a pas de documents conservés, c'est ça ? En dehors de ces témoignages oraux ?
Et parce que là, il y a eu une démarche de collecter le vécu, en fait, l'expérience.
Il y a quand même des archives écrites. Alors, il y a des fonds personnels qui ont été déposés aux archives nationales. Et puis, les budgets, les conseils d'administration, les choses comme ça. Mais c'est assez, en fait, le fonds d'archives déposé est assez faible au regard de l'importance de l'institution. Mais après, on a aussi, pour écrire l'histoire de l'INRA, on a pu collecter les documents qui ont été émis par l'INRA et qui donnent qui sont des vrais matériaux historiques qu'on peut utiliser pour écrire l'histoire de cet institut. Donc on a quand même de quoi faire.
Bon, et des matériaux scientifiques aussi qui doivent exister, on imagine. En tout cas, vous avez toute liberté d'avoir accès aux archives. Il n'y a pas de documents sous un quelconque secret.
Non, on n'a pas de souci. Une fois qu'on les trouve, on peut les utiliser.
Alors, on va prendre la mesure de ces documents d'archives, donc ces archives orales, Lisa Loumartone. Mais paradoxalement, alors, on n'y a pas accès parce que toutes ces archives, tous ces entretiens ont été déposés aux archives nationales. Mais à Fontainebleau, le centre étant fermé, donc je précise pour les auditeurs, on n'aura pas la voix, mais on a la retranscription d'une partie de ces témoignages. Et donc, c'est Régis Royer qui va nous en livrer un extrait. Il s'agit du témoignage de Pierre Bouvarel, une interview donnée le 8 novembre 1995 à Denis Poupardin.
J'avais eu l'occasion d'effectuer, au début des années 50, un long séjour aux États-Unis, une mission payée sur des crédits alloués dans le cadre du plan Marshall. Je m'étais rendu notamment en Californie, dans la Sierra Nevada, où j'avais eu l'occasion de visiter à Placerville le premier institut de génétique forestière. J'avais rencontré, au milieu d'une vaste forêt de Pinus ponderosa et de Pinus geoffreyi, des chercheurs fort sympathiques. Ils avaient pris une autre voie que la nôtre, celle de l'hybridation. Ils montaient dans les arbres et mettaient du pollen sur les fleurs femelles avec des seringues avant de les ensacher. Ils espéraient obtenir ainsi un certain hétérosis. Enfin, je crois qu'à cette époque, tout le monde tâtonnait un peu. Ce que je sais, c'est que les discussions que j'ai eues là-bas ont nourri beaucoup mes réflexions. J'y ai rencontré en effet des gens qui entrevoyaient les voies dans lesquelles allait s'engager plus tard la génétique moderne.
Lisa Loumartone, donc vous travaillez vous sur ces documents, donc ces entretiens dont on a aussi une trace écrite et qui disent beaucoup de cette étude que vous menez sur les recherches forestières entre France et Canada, c'est ça ? Et donc dites-nous un peu plus de quoi il s'agit dans ce document-là précisément.
Alors c'est un extrait que j'aime beaucoup parce qu'on voit s'y télescoper différents aspects de mes recherches, à la fois le contexte plus large des premiers voyages scientifiques organisés dans le cadre du plan Marshall, dans l'immédiat après Seconde Guerre mondiale, et cette place qui est faite aux influences, au fait qu'on va emprunter ailleurs, on va s'inspirer ailleurs, pour ensuite essayer d'adapter sur le territoire français. Pierre Bouvarel, en l'occurrence, après, a joué une place, enfin, un rôle déterminant dans le développement des sciences forestières en France. Et aussi, ce qui me plaît beaucoup, c'est un peu la vision impressionniste du forestier dans sa forêt. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. L'idée de ce forestier qui va grimper aux arbres pour mener ses expériences, puis qui croise les doigts en espérant que ça va marcher. C'est un empirisme que je trouve très séduisant, en fait.
Alors, je rappelle le titre de votre thèse. Hein. Vous menez donc une thèse en histoire des sciences au laboratoire d'études rurales de l'Université de Lyon, alors sous la direction de Pierre Cornu, et en co-tutelle avec Béatrice Craig de l'Université d'Ottawa. Et donc, votre thèse s'intitule « Les sciences forestières dans l'espace transatlantique, pratique, théorie et circulation, 1880-1960 ». Et donc, elle porte sur cette comparaison des recherches forestières entre la France et le Canada. Alors, à ce stade-là, est-ce que déjà vous voyez émerger quelque chose, une histoire qui véritablement mérite justement non seulement d'être racontée pour l'histoire, mais peut-être aussi pour aujourd'hui et demain?
Alors, ce que je trouve intéressant, c'est d'interroger de manière croisée le rapport à la forêt de deux espaces qu'on a pu considérer comme très homogènes, parce que partageant une certaine communauté culturelle, linguistique. Et de voir qu'en fait, malgré la densification de ces échanges, il y avait justement des particularités qui restaient, des distinctions. Et c'est vrai que de manière plus large, ça permet un peu de s'interroger sur la manière dont on hiérarchise les problèmes ou les questions scientifiques d'un pays à l'autre. Et puis éventuellement
Les coopérations aussi, parce qu'il faut quand même rappeler que finalement, au cœur de l'histoire de l'INRA, c'est en 1964 qu'il y a la création d'un secteur spécifique consacré aux recherches forestières. Hein.
C'est vrai.
Et en même temps, les recherches sont menées avant, c'est-à-dire vous commencez en 1880.
C'est ça. Mais après, par exemple, dans le cadre du témoignage de Pierre Bouvarel
oui.
Qui après a joué un rôle à l'INRA, c'est un voyage qu'il effectue immédiatement... après-guerre, à un moment où il est déjà forestier, mais n'appartient pas encore à l'institution. Mais c'est un héritage, il y a une continuation de l'expérience, en fait.
Oui, bien évidemment, et qu'il emmène avec lui quand il intègre l'institution. Alors, pourquoi ce choix, typiquement, les forêts, Lisa Loumarton?
Alors, c'est déjà parce que j'y ai pris goût, lors de ce fameux stage... à mon retour du Canada.
Oui.
Et c'est surtout parce que, sachant déjà que je voulais développer ma thèse dans le cadre d'une co-tutelle, j'avais besoin d'un sujet qui se prête à la comparaison. Et en réalisant le stage en question, je me suis rendu compte que la recherche forestière, c'était un domaine qui s'était internationalisé de manière très précoce et que les forestiers étaient parmi les chercheurs les plus mobiles. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être matière à sujet.
Donc ça veut dire que vous partagez aussi entre les deux pays pour mener vos travaux de recherche ?
Oui. Donc là, j'arrive au terme de ma deuxième année de thèse en France et je m'envole pour le Canada début juillet.
Et voilà. Alors, vos fonds d'archives précisément, donc en dehors de Arcoral, qui est cette base vraiment des entretiens mis en place par Denis Poupardin dès 1995, enfin l'idée en 93, mais donc dès 1995, vous travaillez sur quoi ?
Alors ça c'est peut-être un héritage de ma formation littéraire, mais j'ai une véritable prédilection pour l'imprimé, donc je travaille beaucoup sur les manuels scientifiques de l'époque, les revues professionnelles, mais aussi tout ce qui est correspondance, les colloques de congrès internationaux, etc. J'essaie vraiment de pister tout ce petit monde de la recherche forestière à l'échelle transatlantique.
Odile McBurney, quand on travaille sur des archives écrites, de toute façon, il y a toujours aussi la posture de l'historien, la méthodologie, le regard et le maniement de ces sources, donc des sources écrites et puis des sources orales. C'est vrai que les sources orales, quand ce sont des témoignages donnés a posteriori, il y a toujours aussi le risque de la reconstruction du récit, bien sûr, et de l'histoire a posteriori. Donc ce sont des sources qui sont, on peut dire, un petit peu subjectif. Quelle posture doit-on adopter et finalement ces matériaux-là vous servent comment dans la démarche d'historien ?
Alors ce sont effectivement des sources qui sont subjectives, mais comme le disait Denis Poupardin, en fait lui il croyait à l'intérêt collectif de l'expression de la subjectivité. Il disait que c'est subjectif certes, mais ça a quand même un intérêt parce que ça apporte du sens Après, effectivement, donc on a des histoires qui sont assez reconstruites, mais on le sait quand on va lire ces témoignages, donc on peut le faire avec nuance. Mmh. Il va falloir pondérer ces témoignages par rapport à la place que le témoin avait dans l'institution. Est-ce que c'était quelqu'un qui avait vraiment pignon sur rue, ou est-ce que c'était un chercheur un peu plus isolé, ou voire un administratif, puisqu'il y a un peu de tout dans ces témoignages. Donc voilà, la posture de l'historien, en fait, c'est critiquer ces documents comme il sait critiquer des documents d'archives, on va dire, classiques. Et donc, avec cette méthode, on peut, et en ayant bien conscience des biais qui sont là, on peut en faire quelque chose de très intéressant. Ça donne notamment accès à des petites choses de la vie quotidienne qu'on n'a pas dans les archives classiques. Donc, ouais. Ça sert à incarner aussi l'histoire ensuite que l'on va faire. Et c'est un matériau absolument, absolument remarquable. D'autant plus quand on croise ces sources avec d'autres et qu'on voit que ça colle bien, qu'on en trouve vraiment des choses intéressantes, c'est vraiment fascinant, quoi.
Alors vous avez toutes les deux donc ce terrain de recherche en histoire des sciences sur des sujets aux prises, on peut le dire, avec aussi des enjeux planétaires hein, aujourd'hui, avec le maintien de la biodiversité, l'adaptation des forêts au changement climatique, etc. Vous faites œuvre, on peut dire, d'historienne et aussi œuvre patrimoniale, dans le sens où il y a tout ce travail de valorisation de ces archives, et avec le souhait peut-être aussi de susciter un intérêt, une réflexion chez les acteurs de l'INRA aujourd'hui, ou chez les jeunes par exemple, qui embrassent une activité scientifique au cœur de cette institution.
Oui, effectivement. Alors, par exemple, avec l'ouvrage qu'on est en train d'écrire sur l'histoire de l'INRA, quand on en parle à l'intérieur de l'INRA, les gens sont extrêmement intéressés. On sent vraiment qu'il y a ce désir de comprendre d'où ils viennent. On a ce souhait de faire partager, puisque ça va être un livre à destination, enfin un livre plutôt de type grand public, qui aura quand même la rigueur académique de la démarche historique. Mais on espère en effet, par son format, un livre qui illustré, puis qui raconte vraiment une histoire, c'est du récit, qu'on pourrait presque lire comme un roman. C'est aussi ça l'histoire, c'est la chance de faire de l'histoire que de pouvoir écrire dans ce style-là, que ça pourrait intéresser les jeunes chercheurs pour comprendre un peu d'où ils viennent aussi.
Donc un livre à paraître, on a la date à peu près ?
Fin 2016,
et donc coordonné par Egizio Valseschini notamment, hein, je crois, et puis Pierre Cornu.
Et Pierre Cornu, voilà.
Et dernière question dans cette première partie avec vous, Lisa Lou-Martin et Odile Mac-Bournet. Il y a donc cette envie aussi de favoriser un meilleur dialogue entre science et société, que l'histoire serve aussi à cela. À ce stade de vos recherches, vous sentez que, par rapport à vos thèses, il y a ces perspectives à l'horizon ?
Alors, j'imagine que
Lisa Lou-Martin.
Peut-être le livre auquel se sont attelés Odile, Pierre Cornu et Egizio Valseschini aura peut-être plus de résonance que des travaux de thèse qui ne sont pas forcément lus.
Mm-hmm. Oui, mais après une bonne thèse peut faire l'objet d'une publication également.
Ah, donc, on espère.
C'est aussi ça, la perspective d'avenir en tant qu'historienne. En tout cas, vous n'en êtes pas encore là, il reste quelques années de recherche. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir fait partager ce vécu, en tout cas en tant qu'historienne d'histoire des sciences et puis ces travaux en gestation. On vous suivra, vous nous tiendrez au courant. Et puis dans un instant, on va suivre aussi l'exploration de travaux sur un autre terrain, direction le fond des océans, l'histoire de la biologie marine avec Loïc Péton.
Pourquoi la mer n'aurait-elle pas gardé dans ses profondeurs des échantillons de la vie d'un autre âge ? Pourquoi ne cacherait-elle pas dans son sein les dernières variétés de ces espèces titanesques dont les années sont des siècles et les siècles des millénaires ?
Donc l'Abraham Lincoln va bien avoir à se mesurer avec un monstre.
Ah non, je ne peux que le supposer. Mais ce monstre est capricieux, car depuis que cette expédition contre lui est décidée, c'est-à-dire je crois depuis 2 mois, sa présence n'a été signalée nulle part.
Mais si, justement. Et je vois que j'aurai au moins le plaisir de vous apprendre quelque chose.
Ah oui ?
Il paraît que le Tempico, qui assure la liaison San Francisco-Shanghai, a vu cet animal apocalyptique dans les mers septentrionales du Pacifique.
Project stretching down to planet.
choix musical d'aujourd'hui. On vous le doit, Lisa Lou Martone, c'est...
C'est PJ Harvey.
The Community of Hope. C'est ça aussi la relève des savoirs, c'est cet échange entre nous et la découverte de musique. Voilà, c'était le choix de Lisa Lou Martone. Et c'est la suite de La Marche des Sciences sur France Culture en direct. Il est 16h32 dans une semaine spéciale relève des savoirs. Demain, les savoirs, nous sommes en compagnie de trois jeunes chercheurs en histoire des sciences. Odile McBournet, ingénieure agronome, dont la thèse en histoire porte sur la recherche agronomique et les politiques de la science, les relations entre l'INRA et ses ministères de tutelle. Avec nous également Lisa Lou Martone, doctorante en histoire qui travaille sur les sciences forestières dans l'espace transatlantique, pratique, théorie et circulation. Et enfin Loïc Péton, docteur en histoire des sciences, spécialisé en histoire de l'étude de l'océan et des sciences de la vie, et dont la thèse s'intitule « Penser l'existence de vie dans les profondeurs marines au XIXe siècle, entre abîme et origine du vivant, 1804-1885 ». Alors tout de suite, direction les grands fonds.
Mes regards se reportèrent sur le manomètre. L'instrument indiquait une profondeur de 6000 mètres. Notre immersion durait depuis une heure. Le Nautilus, glissant sur ses plans inclinés, s'enfonçait toujours. Les eaux désertes étaient admirablement transparentes et d'une diaphanité que rien ne saurait peindre. Une heure plus tard, nous étions par 13000 mètres, 3 lieues et quart environ, et le fond de l'océan ne se laissait pas pressentir. Le Nautilus descendit plus bas encore, malgré les puissantes pressions qu'il subissait. Je sentais ses tôles trembler sous la jointure de leurs boulons. Ses barreaux s'arquaient, ses cloisons gémissaient. Les vitres du salon semblaient se gondoler sous la pression des eaux. Et ce solide appareil eût cédé, sans doute, si, ainsi que l'avait dit son capitaine, il n'eût été capable de résister comme un bloc plein. En rasant les pentes de ces roches perdues sous les eaux, j'apercevais encore quelques coquilles, des serpulas, des spinorbis vivantes et certains échantillons d'astéries.
Bonjour Loïc Péton.
Bonjour.
On entend là un extrait de Jules Verne, oui. 20 milieux sous les mers, que vous nous avez proposé. Et d'ailleurs, il faut rappeler que c'est une femme qui influença Jules Verne dans son projet d'écrire une histoire dans les profondeurs de la mer. C'est George Sand, je crois. Il lui a écrit une lettre en juillet 1865.
Oui, ils avaient une correspondance entre Sand et Verne. Et donc, il aurait peut-être incité donc, à écrire ce voyage sous-marin qui, en fait, au XIXe siècle, c'est un voyage imaginaire puisqu'il n'existe pas encore de submersible profond. Donc, les rares sous-marins à l'époque, les essais de submersibles descendent jusqu'à quelques mètres de profondeur. Et ce n'est qu'au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, que les hommes descendront en bathyscaphe jusqu'à près de 11 000 mètres, donc la profondeur maximale des océans. Et donc Verne imagine cette descente à partir des moyens de l'époque. Et j'ai trouvé intéressant de faire lire ce passage.
Bah, toujours aussi agréable, effectivement, à écouter, et encore plus avec la voix de Régis Royer. Est-ce que on peut dire que Jules Verne a eu une influence sur vous également pour prendre le chemin de l'histoire des sciences et surtout de cette histoire des océans?
Peut-être pas tant que ça. Jules Verne est plutôt l'imaginaire que qu'attisent les profondeurs, en fait, et qui m'intéresse, en fait, et notamment. Les savants se retrouvaient face à une inconnue au XIXe siècle, et donc je trouvais intéressant de creuser cette histoire-là et de comprendre comment ils allaient étudier cette profondeur et aussi comment ils pensaient cette profondeur et dans quel contexte. Donc il y avait un imaginaire culturel aussi autour de ces savants.
Alors, vous avez une formation de biologiste à la base. Oui. Cette décision de devenir historien des sciences, vous l'avez prise finalement sur quel critère, sur quelle base?
Ben, en fait, je suis biologiste marin de formation.
Oui.
Et donc, j'ai choisi en fait, de prendre du recul sur la science pour mieux la comprendre, en fait, pour essayer de mieux cerner les théories scientifiques et notamment pour mieux comprendre l'étude des profondeurs marines au 19e siècle au centre François Viette, qui est un centre d'histoire des sciences. À Brest.
Donc ces fameux travaux d'histoire et notamment en histoire des sciences pour éclairer aujourd'hui et demain, c'est cette dimension. Et donc oui, il faut rappeler que votre thèse, vous l'avez menée sous la direction de Grégory Chambon l'université de Bretagne occidentale, donc à Brest, et sous la direction, donc la co-tutelle de Stéphane Tirard de l'université
de Nantes.
Alors concrètement, donc les abîmes, lieu de tous les fantasmes, croyances en un vide sidéral ou bien en un enfer où régneraient des êtres effrayants, hein, c'est ce qui perdure jusqu'au début encore du 19e siècle.
Oui, beaucoup d'inconnus perdurent à ce moment-là. Donc, sans instruments, les savants imaginent les profondeurs à partir de moyens, en imaginant la pression, l'absence de lumière, et avec ces facteurs-là qu'ils imaginent. Déjà au 18e, certains réalisent quelques expériences, mais c'est vraiment au 19e que de nombreuses expériences ont lieu et que l'océanographie, à la fin du siècle, émerge en tant que discipline, avec notamment la mise au point de dragues, de sondes, de thermomètres pour les grandes profondeurs qui résistent à la pression, etc.
Et pendant longtemps, on se base aussi sur les récits laissés par les marins, je crois, ou qui ont cru apercevoir telle ou telle créature étrange ou...
Oui, par exemple, il y a l'exemple de Denis de Montfort, qui est un naturaliste au tout début du 19e siècle, qui va écrire abondamment pour en fait prouver l'existence d'un poulpe colossal ou poulpe kraken qui attaque les navires sur les mers, et donc qui se base énormément sur les récits de marins de différentes époques d'ailleurs.
Donc votre époque à vous, hein, d'études en tant qu'historien, c'est donc le 19e siècle. Sur quel type d'archives avez-vous travaillé concrètement ?
J'ai travaillé énormément sur les publications, donc articles dans des revues savantes, essentiellement françaises et britanniques, mais également sur des ouvrages que certains auteurs savants ont écrits. Et j'ai été aussi voir derrière le côté publié pour voir un peu les correspondances et les notes personnelles des savants dans les archives, comme ici à Paris au Muséum d'Histoire Naturelle, à l'Académie des Sciences ou à Londres au Muséum d'Histoire Naturelle aussi.
Donc on démarre avec ce début du 19e siècle, et en sachant que ce siècle-là, c'est celui aussi d'un grand bond de nos connaissances en matière océanique et d'océanographie, il y a l'émergence de l'intérêt scientifique véritablement pour les grandes profondeurs.
Oui, c'est aussi quelque chose de culturel. En fait, c'est Alain Cambin parle d'un attrait pour le rivage à cette époque. Et moi, j'ai tendance à dire aussi qu'il y a, en plus du désir du rivage, il y a le désir aussi de l'abîme, notamment avec la génération romantique qui est attirée par les profondeurs, par la falaise, par les vagues, par ce côté un peu démoniaque de la mer. Avant, elle pouvait avoir un côté répulsif assez souvent. Et là, cette génération-là s'intéresse, c'est une élite sociale qui s'intéresse un peu à cette mer, à ses profondeurs, et le savant fait partie de cette génération qui va vers ses profondeurs.
Oui, en sachant que dans la première moitié du 19e siècle, alors quelques voix laissent entendre que la vie existerait dans les abîmes, mais en même temps, le monde scientifique de cette première moitié se drape dans la certitude que c'est impossible.
Voilà, en fait, il y a Edward Forbes, un naturaliste britannique, qui va exposer au monde savant, britannique avant tout, mais ça va être diffusé aussi à l'international. Donc il va exposer une théorie comme quoi la vie est impossible au-delà d'une certaine profondeur. Donc cela fait suite en fait à une expédition en mer Égée où il va draguer la profondeur jusqu'à 230 mètres. Et il remarque une diminution du nombre d'espèces avec la profondeur. Donc il va extrapoler à une limite, un zéro de la vie animale vers 300 brasses, 550 mètres.
Alors que dans la deuxième partie du 19e siècle, on a d'autres études marines, par exemple l'expédition du HMS Challenger, financée par la Royal Society et qui mesure les températures en profondeur, qui va rechercher la vie, recherche d'espèces archaïques. Je crois que là, ça marque vraiment un temps parce qu'on réalise que cette vie, elle existe finalement.
Oui, cette expédition en fait va prouver en fait à la communauté savante l'existence de vie dans différentes mers autour du globe, vu que c'est une expédition de 4 années qui fait le tour du globe. et aussi à des profondeurs jusqu'à plus de 4500 mètres. Et donc, c'est dans les années 1870, dans un autre contexte où les savants sont plus à même de penser l'existence de vie en grande profondeur que la communauté, notamment britannique, 30 ans plus tôt.
Alors tout cela, vous nous le racontez dans votre thèse, hein, ça suscite des débats, bien évidemment, des querelles, on n'y croit pas, etc. Quelles sont les premières formes de vie que l'on va faire remonter des grands fonds
Ce sont des formes de vie comme par exemple des ophiures ou des méduses qui sont remontées, par exemple, pour citer un exemple, Georges Aimé en Méditerranée à Alger, au moment où Forbes expose sa théorie.
Il faut rappeler que c'est un physicien français,
voilà,
qui étudiait la Méditerranée à Alger,
voilà,
et qui a été un des premiers à concevoir une vie dans les grandes profondeurs. Hein.
Oui, suite en fait à des découvertes, il va immerger une ligne avec un instrument et il va remonter sur cette ligne en fait des formes de méduses accrochées à cette ligne qu'il va... Mais en fait, il était physicien, donc il va les décrire, mais de façon assez sommaire. Mmh. Et ses découvertes ne sont pas trop suivies, même s'il est en contact avec le muséum à Paris. Et dans un autre contexte aussi, George Wallich, qui en fait réalisait des sondages lors d'une expédition en Atlantique Nord, va lui remonter des ophiures, donc des échinodermes proches d'étoiles de mer. Et il va exposer abondamment l'existence de vie profonde à partir de ses découvertes dès 1860. Mais il ne sera pas vraiment écouté tout de suite par les autres savants, et vu que, de part notamment de sa personnalité, il est un peu en marge des autres savants, vu qu'il n'a pas de poste. Il ne sera pas vraiment écouté, même s'il écrit abondamment là-dessus. Mmh. Il sera repris que plus tard, quelques années plus tard.
Alors en même temps, il faut rappeler que toutes ces expéditions se déroulent dans un contexte, aussi une époque où la question des origines de la vie est en pleine redécouverte et suscite des débats, des discussions, hein, Darwin, Huxley, Pasteur un petit peu plus tard.
Oui, en fait, on l'oublie, en fait, mais l'expédition Challenger, qui est assez connue, et avait aussi pour but de prouver l'existence de vie de formes anciennes dans les fonds des océans. Or, étant donné que cette existence-là ne sera pas vraiment mise en avant, elle va être vite oubliée, mais elle se situe à la base du projet du Challenger. Et notamment Thomas Huxley, qui se définit comme le bulldog de Darwin, comme c'est un fervent évolutionniste, donc va essayer en fait de... Huxley va exposer son idée de l'existence en fait d'un batibius au fond des océans. Donc ce batibius, ce serait une gelée primitive, blanchâtre, qui couvrerait le fond des océans et qui serait à l'origine de toute vie. Et donc ce batibius connut un fort engouement en Allemagne, mais aussi en Grande-Bretagne, et voire en France, pendant les années qui suivirent. Or, avec le Challenger, il va se retrouver un peu mis au banc. Le batibius va être rapidement abandonné des publications scientifiques.
Parce que finalement, on découvre que ce n'est pas une forme vivante véritablement, c'est ça?
Non,
c'est plutôt un composé, un...
C'est un précipité qui se formait dans les échantillons lors du contact entre l'alcool et l'eau de mer, et lorsque l'échantillon exposait, cette couleur blanchâtre apparaissait.
Mais est-ce qu'à un moment, quand même, on va considérer que le monde marin est véritablement celui de l'origine de la vie? À quel moment, là, ça se joue?
Ça apparaît à plusieurs moments, en fait. Dès le 18e, il y a l'idée que des espèces anciennes seraient présentes au fond des océans. Après, il y a cette idée du batibius qui apparaît vraiment juste après Darwin et sa publication de l'origine des espèces. Donc, il y a une volonté de trouver une origine qui apparaît dans les années qui suivent sa publication. Et après... ça réapparaîtra dans la seconde moitié du XXe siècle avec les sources hydrothermales notamment et les découvertes d'oasis de vie liées à la chimiosynthèse au fond des océans.
Alors quand on est jeune historien, qu'on se lance dans un sujet de thèse, on ouvre des cartons, on scrute les archives, on y passe des années entières, et en essayant de retracer un pan de l'histoire qui n'a pas encore été relaté. Comme vous avez soutenu votre thèse, Loïc Péton, en janvier, à ce niveau, c'est vrai que vous avez la visibilité complète sur l'histoire relatée. Qu'est-ce qui vous a le plus peut-être surpris par rapport à l'idée de départ? Est-ce que vous avez fait des découvertes que vous ne soupçonniez pas au départ?
Je travaille sur beaucoup de savants déjà, et je ne pensais pas que je trouverais autant de savants qui parleraient de l'existence ou non de vie dans les profondeurs au départ de ma thèse. Donc j'ai découvert en fait des liens entre savants et des idées que, bah, qui n'étaient pas présentes au départ dans l'histoire qui a été faite.
Et comme on disait au début hein, de cette émission, et puis en cours aussi, cette histoire, ces pans de l'histoire qui éclairent aujourd'hui et puis qui peuvent peut-être aussi aider pour des décisions à prendre pour demain, est-ce que vous avez vraiment l'idée, le sentiment que ces travaux, la menée, sont un apport pour nos connaissances scientifiques?
Oui, parce que ça permet déjà un recul sur la science et aussi de... En fait, de mieux comprendre les influences qui peuvent façonner en fait une théorie savante, notamment l'existence ou non de vie en profondeur, que ce soit par exemple la symbolique, les abysses font partie du domaine du bas, qui est souvent, notamment on peut le voir dans la religion occidentale, c'est un milieu dévalorisé, c'est l'enfer bien souvent. Mmh. Et donc ce côté symbolique influence aussi l'idée... d'une vie difficile en profondeur. Donc il y a aussi des traits culturels comme cela, des contextes culturels qui influencent la façon de penser des objets aussi savants.
Merci Loïc Péton. Et puis on attend avec impatience le livre hein, en gestation après une thèse. Normalement on se lance souvent dans cette démarche et en sachant que comme votre thèse, je le sais, a recueilli beaucoup de bonnes impressions en tout cas de la part du jury, c'est à souhaiter pour qu'on puisse le livrer à un public plus large et puis de même pour quand ce sera fini pour Lisa Loumartone et Odile McBournet. Merci à tous les trois. Vous restez avec nous, hein, c'est la suite de l'émission bien sûr.
France Culture. La marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Seconde partie, actualité des sciences et de leur histoire avec le magazine Pour la Science, dont le dernier numéro offre un dossier complet sur la cryptographie quantique pour les adeptes des codes secrets. Et puis en page Histoire des sciences, eh bien un sujet qui nous ramène 100 ans en arrière et nous raconte la genèse des gènes homéotiques. Bonjour Stéphane Schmitt.
Bonjour Aurélie.
Merci d'être avec nous. Donc par téléphone, vous êtes directeur de recherche au laboratoire Sphère, hein, sciences, philosophie, histoire à l'Université Paris Diderot, auteur notamment du livre Histoire d'une question anatomique, la répartition des parties. Donc un livre, vous me dites si je me trompe, la répétition des parties édité aux éditions du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et donc cet article que vous nous proposez en page histoire du magazine Pour la Science s'intitule « Comment la mouche a perdu son aile et la Russie sa découverte ». Et donc c'est l'histoire de l'origine de nos connaissances hein, sur ces gènes homéotiques. Alors dites-nous concrètement c'est quoi alors ces gènes déjà? On les appelle aussi les gènes architectes je crois hein.
Oui, disons le terme gène architecte est un petit peu plus vaste. Les gènes homéotiques, c'est un certain type de gènes du développement. Donc ce sont des gènes qui agissent dans le développement embryonnaire. Alors les gènes homéotiques, ils ont cette particularité que quand ils sont mutés, ça provoque le remplacement d'une partie du corps par une autre. Alors ça se voit par exemple chez certaines mouches, hein, où on a un remplacement d'antennes par des pattes ou ce genre de choses.
Alors dans cette histoire, il y a 100 ans, tout part d'un laboratoire, celui du chercheur Thomas Morgan, c'est ça, l'un des fondateurs de la génétique, à l'Université de Columbia de New York. Hein.
Voilà, donc dans ce laboratoire, on recherchait un peu toutes les mutations possibles de la drosophile, la mouche drosophile, pour essayer de les cartographier sur les chromosomes. Et puis donc on est tombé, par hasard, hein, sur la première mutation homéotique connue de la drosophile, qui était bithorax.
Oui.
Cette mutation, elle avait pour effet de provoquer le remplacement d'une partie du thorax de la drosophile par une autre partie. Concrètement, la drosophile, au lieu d'avoir une paire d'ailes et une paire de toutes petites structures qu'on appelle les balanciers, elle se retrouvait avec deux paires d'ailes.
D'accord. Donc ça, ça a été le constat dans ce laboratoire. Et à ce stade donc des recherches, à cette époque-là, que pensait-on alors des gènes et de leurs mutations? Finalement, on recherchait quoi précisément?
Alors, cette équipe américaine avait ceci de particulier qu'elle s'intéressait presque exclusivement à la transmission des gènes. Donc elle cherchait vraiment à cartographier les gènes sur les chromosomes, voir comment ils étaient placés les uns par rapport aux autres. Donc elle faisait des expériences de croisement pour trouver ça. Et elle s'intéressait assez peu, en fait, à ce qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire à l'expression des gènes. Donc le fait qu'il y ait un remplacement d'une partie du thorax par une autre, là, ça les a pas marqués plus que ça, les chercheurs américains, quand ils ont fait cette découverte. Alors, c'est seulement plus tard donc, oui. que d'autres gens se sont dit « mais en fait, c'est intéressant quand même, pourquoi ça produit ce caractère-là et pas autre chose ?»
Alors, il faut quand même dire qu'avant eux, avant Calvin Bridges, l'assistant de Morgan, un biologiste anglais, donc Bateson, avait cherché à comprendre les discontinuités, hein, c'est ça, au-delà de l'évolution darwinienne. C'est lui qui avait inventé le concept d'homéose.
Voilà, c'est-à-dire que lui, il n'était pas dans le contexte de la génétique, donc on ne peut pas parler en ce qui le concerne de mutations homéotiques. Par contre, effectivement, il s'était intéressé à des cas de remplacement d'organes qu'on trouve comme ça dans la nature, et il avait effectivement introduit ce concept en 1894. Parce que pour lui, en fait, son idée, Bateson, c'était que pour essayer de comprendre l'évolution, le mécanisme de l'évolution, il fallait regarder concrètement dans la nature le type de variation qu'on observait spontanément. Et donc il avait comme ça fait une espèce de catalogue de toutes les variations spontanées observées, et c'est là qu'il avait introduit cette notion d'homéose pour décrire des remplacements d'organes.
Alors pour bien comprendre le titre de votre article, Stéphane Schmidt, comment la mouche a perdu son aile et la Russie sa découverte, il faut faire rentrer la Russie dans tout ça. À quel moment finalement est-ce que les chercheurs russes entrent dans l'histoire du concept de gène homéotique ?
Alors ça se passe à la fin des années 20, parce que comme je vous le disais, donc les Américains ne s'intéressent pas tellement au phénotype, par contre les Russes si. Et eux aussi, donc, ils vont s'intéresser à des mutations homéotiques de la drosophile, notamment Bithorax, mais d'autres, hein, qu'ils vont trouver, comme Aristapédia, qui transforme une antenne en pâte. Mm-hmm. Et eux, donc, contrairement aux Américains, ils vont vraiment s'interroger sur la manière dont la mutation agit dans le développement et pourquoi elle provoque un remplacement d'organes. Et c'est ça qui est très important et très novateur à l'époque, à une époque justement où la grande génétique, la plus prestigieuse, celle de Morgan, délaisse ce genre de problématique. Et donc c'est pour ça que le rôle de la Russie à cet égard est un peu sous-estimé aujourd'hui, alors qu'il a été extrêmement, extrêmement important.
Alors finalement, en quoi ces travaux des chercheurs russes ont été primordiaux ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de la biologie évolutive, hein, l'ère de l'évo des veaux, hein, c'est ça le principe. Vous allez nous dire d'ailleurs où on en est hein, par rapport à cette biologie-là, qui, me semble-t-il, est un champ en pleine ébullition hein, de la biologie évolutive du développement. Donc finalement, ces Russes, ils déclenchent quoi par rapport à tout ça ?
Ces Russes, comme je vous le disais, donc ils se demandent comment les gènes agissent dans le développement au travers de ces mutations homéotiques. Et puis au-delà de ça, ils se disent, mais du coup, au cours de l'évolution, ces mutations homéotiques, elles ont pu jouer un rôle. Bah, par exemple, pour expliquer comment les mouches ont pu apparaître. Parce que les mouches, donc, elles n'ont qu'une paire d'ailes. Mais leurs ancêtres, qui étaient des ancêtres, des insectes plus ordinaires, on va dire, ils avaient deux paires d'ailes. Donc à un moment donné, il y a eu une perte d'une paire d'ailes au cours de l'évolution des diptères, des mouches. Et donc pour eux, pour ces Russes, ils se disent, mais en fait, en étudiant cette mutation qui revient finalement à deux paires d'ailes, on peut comprendre le mécanisme de l'évolution. Et c'est là, c'est vraiment un point absolument fondamental parce que ça réunit plusieurs problématiques, la génétique d'une part, la biologie du développement d'autre part, et enfin la théorie de l'évolution. Et ces trois aspects, ce sont eux qui sont réunis aujourd'hui au sein de ce qu'on appelle l'évo-dévo, la biologie évolutive du développement, discipline qui est née plutôt dans les années 80, hein, mais qui finalement a une préhistoire, donc on retrouve en Russie dans cette équipe de chercheurs.
Et alors vous citez aussi un autre pays actif par rapport à ces recherches, c'est l'Allemagne.
Absolument, parce que en Allemagne aussi, un petit peu comme en Russie à l'époque, donc dans les années 20-30, il y avait une école de génétique qui était un peu plus ouverte que la génétique américaine, donc qui s'intéressait elle aussi au phénotype. Alors dans cette génétique allemande, il y avait en particulier un personnage très important qui s'appelle Richard Goldschmidt, qui a tout de suite vu dans les travaux des Russes ce qu'il y avait d'important, et donc il a repris un peu ses travaux. Et le destin un peu bizarre des Russes, aussi bien que de Goldschmidt, c'est que leurs recherches ont été perturbées par les événements politiques. En Russie, eh bien, c'était école de génétique a été complètement décimée par le stalinisme et par Lysenko. En Allemagne, Goldschmidt étant juif, il a dû fuir. Donc lui, il a pu poursuivre ensuite ses travaux, mais il les a poursuivis ailleurs qu'en Allemagne, en l'occurrence aux États-Unis. Et aux États-Unis, sa manière de faire de la génétique, elle était assez hétérodoxe, parce qu'aux États-Unis, ce qui régnait, c'était la tradition de Morgan.
Eh oui, ouais. La génétique morganienne, et donc là, il fallait effectivement pouvoir s'imposer, s'implanter dans ce contexte-là. Alors, est-ce que depuis Stéphane Schmidt, donc, alors vous nous dites, hein, depuis les années 80, effectivement, il y a eu l'émergence de ce champ nouveau, hein, la biologie évolutive du développement, ou l'EVO-DEVO, donc cette synthèse de la génétique moléculaire, de la biologie du développement et des sciences de l'évolution. D'autres gènes du développement ont été mis en évidence, ou en un mot, que représentent encore aujourd'hui les gènes homéotiques ?
Alors, oui, après les gènes homéotiques, beaucoup d'autres gènes du développement ont été mis en évidence, hein, alors chez plein d'animaux, chez les plantes. Donc maintenant, c'est un champ d'études absolument gigantesque, hein, c'est une discipline à part entière. Cela étant, les gènes homéotiques conservent une certaine valeur un peu paradigmatique, si j'ose dire, parce que c'était les premiers vraiment sur lesquels on a réfléchi sur le concept de gènes de développement, sur l'importance de l'étude de ces gènes pour la compréhension de l'évolution. Et donc aujourd'hui encore, ces gènes homéotiques, et notamment Bithorax, hein, enfin le gène correspondant aux mutations Bithorax, découvertes il y a 100 ans, ces gènes conservent encore une importance conceptuelle majeure dans la biologie.
Eh bien, merci Stéphane Schmidt. Je rappelle le titre de votre livre, hein, Histoire d'une question anatomique, la répétition des parties, un livre édité aux éditions du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et puis votre article à retrouver bien sûr dans le magazine Pour la Science du mois de juin. Et toutes les informations, les liens sur le site internet de l'émission, bien sûr, hein, franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences. Vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger, nous suivre sur Twitter et sur la page Facebook. Et c'est la fin de la Marche des Sciences. Merci de nous avoir suivis. Émission préparée avec Catherine Donnet, Anaïs Morales pour les archives et Régis Royer pour la lecture des textes. À la réalisation, Alexandra Malka. À la technique aujourd'hui, Bruno Gagnère-Fontanille. La semaine prochaine, nous vous proposerons notre dernier grand portrait de la saison et c'est la philosophe et éthologue Vinciane Després qui sera à l'honneur. Demain, autre rendez-vous à ne pas rater dans Culture Science à 16h, Michel Albergantier et Sciences Publiques. La recherche française peut-elle séduire les jeunes ? C'est son sujet dans cette semaine. Demain, les savoirs.